Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est de tradition que nous soyons avec nos amis de Procivis où nous avons déposé notre plateau, nos caméras, notre régie avec notre cher Jason qui est à la manœuvre. Voilà, il est également de tradition d'ouvrir le bal de ce congrès avec le président de Procivis. Yannick Borde est avec moi. Bonjour Yannick.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
En pleine forme, très heureux d'ouvrir le bal comme vous dites avec vous aujourd'hui.
Alors, je ne peux pas résister. Vous savez, on ne peut pas résister. Nous avons enfin un gouvernement, voilà, au bout de moult tractations. Et nous avons donc 38 ministres, 16 ministres de plein exercice. Surprise, est-ce que c'est un bingo ou pas ? On va le décrypter ensemble. Valérie Létard, députée du Nord, a été donc nommée au gouvernement en tant que ministre du Logement de plein exercice. On peut le traduire comment ? Vous avez écrit un poste pas plus tard qu'hier, qui a plutôt bien fait bouger les lignes. On va décrypter l'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, c'est le fait d'avoir un ministre de plein exercice, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi peut-être quand même la traduction de ce qu'on avait entendu depuis 3 mois, où on avait d'abord eu une campagne législative où, pour la première fois depuis très longtemps, la question du logement était quand même apparue, même si c'était une campagne très particulière. Mais je pense que tous les parlementaires ou tous les candidats aux législatives ont dû entendre sur leur territoire, pour une grande partie d'entre eux en tout cas, que la question du pouvoir d'achat et avec elle la question du logement était quand même au centre des préoccupations et des inquiétudes des Français. Donc c'est un sujet qui était quand même mis sur la table. Et puis on a eu cet été de petits événements quand même, enfin j'enlève le mot petit parce que un commentaire du président de la République et un commentaire du ministre de l'économie reconnaissant que la politique du logement était problématique. Voilà, donc au bout d'un moment...
C'était presque drôle.
C'était en tout cas caustique, au mieux. Mais voilà, donc au bout d'un moment, avec en empilant toute cette situation-là, on pouvait légitimement penser que ça allait être pris en compte, ce qui a été fait, ce qui est une bonne nouvelle.
Valérie Létard, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la profession dans son ensemble.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour la profession. C'est une personne qui, d'abord, c'est une élue d'expérience, que ce soit sur des mandats d'élu local dans la région de Valenciennes ou au Parlement, puisqu'elle a...
Elle a été sénatrice,
elle est redevenue députée, donc elle a une grosse connaissance des deux chambres, elle a une très bonne connaissance des rouages de tout ça, et puis c'est une élue qui s'est de multiples reprises positionnée et intéressée à la question du logement. Alors, c'est pas une professionnelle de l'immobilier ou du logement en tant que telle en termes d'activité, mais en tout cas depuis de très très nombreuses années, elle s'est appropriée ces questions-là. Donc elle connaît, elle a pris des positions ces derniers mois sur des sujets très sensibles pour nous. Voilà, maintenant, l'enjeu, c'est quelle va être sa force par rapport notamment à la politique souhaitée par le Premier ministre et puis parfois à la résistance qu'il peut y avoir du côté de Bercy. Et je pense que notre responsabilité collective à nous, acteurs, c'est de partager avec elle très vite. Je pense que ça sera fait rapidement et je pense que ça ne sera pas très dur de partager le constat. Je pense que celui-là, il n'y a pas trop de débat, mais les mesures essentielles qu'il faut actionner le plus vite possible. Et puis, bien évidemment, l'accompagner et l'aider à les construire pour qu'elles soient acceptées par le Premier ministre, notamment.
Alors justement, on va faire preuve de résilience et on va égrener les solutions que vous portez déjà depuis un sacré bout de temps. Hein. Puisque pour réparer toute une industrie qui a été quand même mise à genoux, vous l'avez rappelé, par une direction politique du président de la République assumée.
Oui.
Et d'un Bruno Le Maire qui, pour la première fois de l'histoire, a quitté son poste pas du tout dans les formes traditionnelles. Je trouve ça assez singulier. Voilà. On a un nouveau ministre du logement qui fait penser d'ailleurs, dans une certaine mesure, au président de la République dans sa jeunesse. Voilà, ministre d'État, 33 ans, fonctionnaire, plutôt pas mal. En tout cas, on en parlera. Le ministère de plein exercice a un but, Yannick Borde, c'est d'obtenir et d'avoir des arbitrages parfois même un peu délicats. On va commencer par le PTZ. Favorable à l'élargissement du PTZ partout en France.
Alors nous, on a... je vais répondre à la question, mais avant...
Le prêt à taux zéro pour ceux qui nous écoutent.
Un petit préalable quand même sur lequel moi je reste très attentif. Nous, on est très préoccupés par la situation des finances publiques de notre pays. D'abord parce qu'on ne peut pas vivre avec une dette aussi colossale de façon à la transmettre comme ça sans réagir.
Depuis 1980.
Oui, et puis ça génère aussi quand même une détérioration de l'image de la France notamment sur les marchés financiers, sur l'approche notation de la France, etc. Et ça paraît peut-être un peu loin du quotidien des gens, mais en fin de compte, cette histoire de notation de la France et d'approche des marchés financiers, de la situation financière du pays, elle joue demain sur les taux d'intérêt, elle joue sur la capacité à emprunter de l'État, et elle joue sur tout ça. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il faut quand même se méfier. Mes différentes fonctions m'amènent de temps en temps à rencontrer quelques agences de notation. Je pense que le mois d'octobre risque d'être un petit peu sensible aussi sur cette question-là. Et donc, la question des finances publiques, elle est cruciale. Donc nous, on est toujours en train de se dire, il y a des mesures à corriger, mais attention à l'impact. Ce qui me gêne beaucoup aussi avec la Direction générale du Trésor dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est que quand on prend une mesure, ce que moi je peux comprendre, hein, ceux qui sont en place, ils assument la politique qu'ils conduisent, on essaye quand même de l'impacter, de la mesurer et de la challenger. Et ça, je ne suis pas certain que ça soit toujours fait. Donc sur le prêt à taux zéro qui a été supprimé sur la maison individuelle et sur toutes les zones dites B2 et C au 1er janvier, enfin au 1er avril exactement l'année dernière, de cette année, aujourd'hui on a vu que c'était une catastrophe pour financer l'accession à la propriété.
On est d'accord, ça complètement d'accord. Toi, c'est une erreur.
Donc il faut le remettre. Alors voilà. Après, il y a deux choses. Soit la baisse des taux qu'on a depuis quelques temps permet de revenir pour l'État dans la compensation du taux zéro à quelque chose de budgétairement supportable. Et dans ce cas-là, on demandera à Valérie Létard de réintroduire le plus vite possible, c'est-à-dire au 1er janvier, à travers la loi de finances, le prêt à taux zéro sur tout le territoire et sur tous les types de produits. Soit on est encore sur une addition budgétaire de frais financiers qui est un petit peu trop lourde, et de ressortir ce qu'on avait produit pour le CNR, que la première ministre de l'époque a mis à la poubelle, comme tout le CNR d'ailleurs. Donc tout est sur l'étagère aujourd'hui. Hein. Les idées, on n'en a plus d'autres. Hein. Et donc ce qui avait été produit, c'était un prêt à taux bonifié, considérant qu'avec un niveau de taux d'intérêt pour l'État, ça pouvait être du 0%. Et puis si les taux montaient, on pouvait avoir quelque chose qui était décoté. À une condition, c'est de ne pas changer la mécanique du prêt à taux zéro actuel, notamment sur les différés d'amortissement. C'est ça qui fait la solvabilisation. Au-delà du taux zéro, qui aide évidemment, mais si demain il est à 1,5, ça ne changera pas grand-chose.
Précisons que le prêt à taux zéro est octroyé avec des conditions
de ressources,
variables
suivant les zonages.
Et qu'il est favorable à la primo-accession, qui en a pris un sacré coup depuis 2 ans.
On en parle régulièrement quand on se voit aujourd'hui.
On ne parle pas des investisseurs privés.
Non, Yannick. Pas du tout.
On parle de monsieur et madame tout le monde qui a un désir très fort, un désir protecteur, puisque...
On parle de la classe moyenne qui n'accède plus à la propriété aujourd'hui.
De la classe moyenne
qui ne peut plus accéder.
Et très certainement, et qui d'ailleurs a cette impression, et vous le savez, d'être relégué socialement parlant.
Après, on a vu aussi, et on a tous peut-être une part de responsabilité parfois dans les messages qu'on a portés, mais on a vu aussi des gens qui s'autocensurent, c'est-à-dire qui pensent que c'est plus pour eux, qui pensent qu'ils n'en ont plus les moyens. La détente des taux, là, doit faire revenir un certain nombre de choses. D'accord. Mais effectivement, sur les zones où le prêt à taux zéro n'est pas possible, ce qui représente quand même 93% du territoire. Je rappelle que les zones B2 et C, c'est 93%. Un petit peu moins peut-être
Merci
maintenant, parce qu'il y a eu quelques changements de zonage cet été. Mais c'est au moins 90% du territoire. Donc c'est quand même...
Donc il y avait une volonté de dire... Ben,
Il y avait une volonté de dire, on en fera moins. Quoi.
Ça faut
que ça nous coûte moins. Ce qu'on peut entendre, mais à un moment donné, construisons-le ensemble. Et puis moi, je regarde aussi d'assez près les débats qui arrivent ou les informations qui arrivent en ce moment sur le compte de l'État 2024 et notamment les problématiques de rentrée fiscale. Je disais ce matin un département de la région où je suis qui dit qu'il perd quasiment 20 millions de droits de mutation sur le budget 2024 par rapport à ce qu'il avait prévu. Bon, à un moment donné, l'immobilier, c'est quand même un très gros pourvoyeur de recettes fiscales. Donc quand on prend une mesure comme ça, on essaie de regarder quand même ce que ça a comme impact et je pense qu'on est capable de la mesurer.
C'est ce que vous portiez d'ailleurs également au CNR. Deuxième sujet. Est-ce que vous souhaitez la réintroduction ou par dérogation, une prorogation d'un dispositif Pinel qui d'ailleurs avait déjà été prorogé, je vous le rappelle,
tout à fait.
De 2 années jusqu'à fin 2024, il n'y a rien qui remplace. Moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Hein. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a pointé l'efficacité réelle, chiffrée, quantifiée, du dispositif Pinel. Vous l'avez lu ?
Oui.
Et je suis sûr que vous êtes bien marré quand vous l'avez lu, parce qu'en vous disant... Yannick, on marche un peu sur la tête.
C'est un peu ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des mesures qui sont prises, c'est bien quand même d'essayer de mesurer leurs impacts. Et là, effectivement, la Cour des comptes, qui avait quand même par le passé fait des rapports un petit peu différents, beaucoup plus critiques sur les dispositifs d'accompagnement fiscaux.
Reconnaissons son objectivité.
Exactement.
Parce qu'elle a pris des données chiffrées d'un impact long, je rappelle long, sur la durée, et qu'on a vu l'impact évident à deux niveaux, Yannick Borde. Et je le dis pour ceux qui nous écoutent, pour les primo-accédants, c'est-à-dire pour les locataires sur des zones dans lesquelles ils n'avaient pas forcément les moyens de louer, parce qu'il y a aussi une contrepartie, et pour des petits investisseurs qui ont travaillé leur protection en vue de la retraite, et ce n'étaient pas les plus riches. Voilà.
Donc nous, on conçoit que le Pinel, voilà, fiscalement, peut-être qu'à un moment donné, il a aussi ses défauts sur une montée des prix, sur un coût budgétaire important, etc.
C'est-à-dire,
en tout cas, on le regarde.
Non, mais précisons.
Bah, tout simplement, c'est que...
Vous pensez qu'il y a certains promoteurs en ont profité pour augmenter artificiellement les prix ?
Pas très sincèrement, quand on regarde ce qui s'est passé, il faut regarder 2018-2019. 2019, ministre de l'époque, c'est Julien Normandie, il décide de supprimer le Pinel sur les zones B2. Donc de le concentrer uniquement sur les zones dites A et B1. Qu'est-ce qui se passe sur ces zones-là? Et notamment sur les villes qui basculent à ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup, il faut les regarder, qui basculent de zonage B2 à zonage B1. Là, toutes les opérations sortent sur ces villes-là. Et nous, on est dans une industrie où, effectivement, la concurrence fait que parfois, elle, contrairement à d'autres secteurs d'activité où la concurrence fait baisser les prix, nous, la concurrence, notamment sur le foncier, elle a tendance à faire monter un petit peu les prix de vente. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas nier cet exercice-là. Il faut le regarder. En tout cas, il faut arriver à s'en mettre d'accord.
Certains de nos confrères ont eu une tentation
On a tout su. Donc, moi, il n'est pas question de dire que c'est les autres et pas nous. Mais nous, on n'est pas...
Ça s'apparente quand même à une forme de spéculation, excusez-moi.
Ouais, c'est-à-dire que oui, on peut le prendre comme ça, mais en même temps, donc il faut faire attention à ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que certes la Cour des comptes dit que son équilibre budgétaire, il peut être effectivement tout à fait défendu, mais en même temps, on peut comprendre aussi que ça peut être un arbitrage budgétaire. Donc nous, on n'est pas complètement gavé au Pinel et on n'est pas complètement opposé à la réorganisation des dispositifs d'accompagnement fiscaux.
Comment on encourage l'investissement alors ?
Non. Il y a le court terme et il y a le moyen terme. Sur le court terme, je pense qu'à date, là, vu où on est par rapport à la fin de l'année, il faut que la loi de finances prévoie de prolonger le Pinel une année. Je sais que certains de mes collègues voudraient que ça soit 3. Moi, je pense que demander 3 aujourd'hui, c'est pas sérieux sur le plan budgétaire. Donc, demander 1, ça nous permet d'abord, pour les opérations qui sont là sur la table, sur lesquelles on appuie sur le bouton ou on n'appuie pas sur le bouton, d'avoir un peu de visibilité et de les lancer. Et ça permet aussi, avec la nouvelle ministre du Logement, de commencer à travailler et de se dire qu'est-ce qu'on met en place au 1er janvier 2026. Et si on veut réduire la facture fiscale, la facture budgétaire, mais si on veut en même temps, quand même, et je pense qu'il le faut, accompagner un investisseur privé qui veut se constituer un patrimoine et qui veut y trouver un intérêt, parce qu'aujourd'hui, la rentabilité immobilière, elle est quand même bien impactée par la fiscalité, donc comment trouver un levier fiscal qui permet de l'améliorer? On a quelques mois devant nous, mais les idées, on les a tous eues il y a 2 ans dans le CNR, donc il suffit d'aller piocher dans l'étagère, de regarder, de corriger, d'ajuster, de prendre des bouts, et on est capable de construire quelque chose qui est soit un système d'amortissement, comme ça existait à la fin des années 2000, soit, pourquoi pas, puisque le gouvernement précédent lui a dit que ça marcherait pas, mais voulait... accélérer sur ce qu'on appelle le logement locatif intermédiaire, c'est-à-dire en gros une TVA réduite et puis une compensation fiscale. Pourquoi pas l'étaler aux particuliers, l'étendre aux particuliers ?
Plutôt bien.
Plutôt bien. Mais très simple. Vous n'avez pas 20% de TVA, vous en avez 10, donc ça veut dire 10% d'économie sur le prix tout de suite. Flat, on n'en parle plus. Plus dans le budget de l'État, c'est plutôt une recette en moins qu'une dépense à venir. Donc ça ne se présente pas tout à fait pareil, c'est plutôt positif.
Exactement.
Et puis, il y a dans le LLI aux institutionnels, il y a une compensation d'État sur l'exonération
logement
de taxes foncières.
Logement intermédiaire,
pardon. Et donc il y a une compensation fiscale sur l'exonération de taxes foncières pour pas que ça soit un élément, un argument, on va dire, pour les élus pour refuser du projet sur leur territoire. Ils gardent leur recette fiscale. Ça serait, comme ça dit comme ça, ça paraît une grande simplicité. Et donc, pourquoi pas, quoi.
Pour les bailleurs sociaux, on l'a vu, j'ai vu les nombres d'agréments, ça pousse les jetons.
Bah, de toute façon, toute la filière...
Non, mais ça fait des années que vous êtes dans le métier, Yannick. Vous avez déjà vu un taux d'agrément aussi faible?
On n'a jamais vu un taux d'agrément aussi faible. On n'a jamais vu un
nombre
de ventes de maisons individuelles aussi faible. On
a 70 millions d'habitants, 38 millions de logements, 2,7 millions de personnes sur les listes d'attente. Mais que se passe-t-il dans l'an dernier, là?
Il se passe ce qui se passe depuis toujours, c'est-à-dire qu'on n'a jamais construit vraiment d'année en année les besoins de logement, mais depuis 2 ans, ça s'écarte de façon colossale.
Donc, alors, les bailleurs sociaux en prennent plein la poire, quoi.
Ouais, enfin, tout le monde en prend plein la poire, parce que regardez...
Oui, là, c'est les joies du direct, ça. Oui. D'accord. Jason, c'est pas ta voiture, là, qui est dehors.
C'est pas la mienne, non plus.
Ouais, Yannick. Oui, oui. Non, mais ça, c'est les joies du direct, les amis, vous avez l'habitude. Alors, oui, mais justement, continuons.
Alors, on était sur... j'ai perdu le fil de ce sur quoi j'étais.
On parlait des conditions, du Pinel, on parlait, de sa...
Des bailleurs sociaux,
deux, on était de sur sa les bailleurs sociaux. Et 3, de la panne. En fait, je distingue pas le marché privé, forcément, des bailleurs sociaux. C'est pas ce que je dis, que les uns se portent mieux que les autres. Mais le logement social, Yannick, est un élément clé dans notre pays d'intégration. Le nombre d'agréments, c'est combien ? 90 000 cette année ?
Ouais, c'est ce qui est annoncé. Je pense que ce sera même un peu en dessous. Ça risque d'être plus près de 80 000.
Combien il en faudrait ?
Ah, il en faudrait
en
peut-être
vitesse de croisière.
120, 130 000 en vitesse de croisière.
Au
donc
minimum.
On n'y est pas. Et puis après, il y a un débat sans fin sur la data dans notre secteur. Parce qu'un agrément, c'est bien. Mais il y a à peu près... Je crois que la Caisse des dépôts avait fait, la Banque du Territoire, la Caisse des dépôts avait fait une étude il y a quelques années. On en a reparlé récemment avec la présidente de l'USH. Je crois qu'il y a 8 à 9% des agréments qui ne donnent pas lieu à la construction de logements parce que le projet est annulé, parce qu'on n'arrive pas à le sortir, parce qu'il y a une alternance municipale qui fait qu'il y avait plus ce projet-là. Parce que voilà, donc c'est aussi une donnée, ça, qui n'est pas nécessairement aujourd'hui complètement maîtrisée, mais qu'il faut arriver à maîtriser. Ce qui est certain, c'est que les bailleurs sociaux ont été fortement impactés en 2018 par la mise en place de la réduction locative de solidarité, qui aurait pu peut-être être supporté s'il n'y avait pas eu, si on était resté à données macroéconomiques constantes, notamment s'il n'y a pas eu la flambée des taux d'intérêt. Derrière, ils ont pris l'augmentation du taux de livret A, les impacts énergétiques.
Bon, ce qu'on appelle la RLS, effectivement, a été fatale au développement. Ça a été un frein considérable.
Alors, la RLS a été un frein. Si vous regardez les premiers résultats de bailleurs sociaux, la première année de suivi de la RLS, ça avait un impact encore assez mesuré. Ce qui est fatal, c'est l'addition de RLS, livret A, crise énergétique, etc. Donc c'est fatal pour l'investissement. En tout cas, ça a fragilisé des outils qui étaient plutôt en capacité d'investir et qui aujourd'hui se trouvent un petit peu plus fragilisés sur ce plan-là.
Dernier point, on a une programmation très forte. Et d'ailleurs, vous avez les 3 jours à venir pour vous, Yannick, ça va être très dense. On va parler de Procivis. Comment se porte le réseau ?
Alors le réseau, il a une particularité, c'est que, et si vous regardez nos rapports d'activité des années passées, vous le verrez aussi, quand le marché est très 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 actif, on est très actif, donc on est moins actif que le marché, quand il fait plus 20, on est plutôt à plus 15. Par contre, c'est vrai que quand il est dans une position plus difficile, on a une capacité de résistance, et en tout cas une exposition au risque qui est un petit peu moins forte.
Pourquoi ?
Est-ce que
la configuration, j'allais dire, coopérative, je peux le dire ?
Il y a la configuration coopérative. Il y a
une
fait
vraie
que
solidarité
c'est...
dans ce réseau.
Oui, mais c'est aussi une somme de structures. Donc, tout le monde n'est pas exposé de la même façon. Il y en a chez nous qui souffrent plus que d'autres. Puis, il y en a qui sont plutôt confort. Il y a aussi un équilibre dans beaucoup de structures du réseau entre des activités dites de flux, c'est-à-dire la promotion immobilière, qui aujourd'hui est quand même le secteur le plus impacté, et les activités dites de stock. Je pense notamment au métier d'administration de biens. On est quand même le 4e administrateur de biens. Donc, ces activités permettent de mieux tamponner des activités plus risquées. Donc voilà, il y a un équilibre qui se fait. Aujourd'hui, les sociétés du réseau sont aussi prudentes. On a une culture, nous, historique. On est né, alors c'était en 1908, ça fait un peu tard, c'est un peu loin, mais je pense qu'il reste des traces, en tout cas dans notre état d'esprit, avec une activité financière qui fait que l'approche du risque, la prudence, voilà, on n'est jamais acteurs qui font de la surenchère sur le foncier.
Tout ce qu'il lit, moi, il y a une chose, je vous l'ai déjà dit, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on vous accompagne, que vous nous accompagnez également. Et merci pour votre confiance. Mais justement, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est ce côté à la fois très entrepreneur, donc très moderne, très contemporain, mais aussi le côté très, j'allais dire, coopératif, humain, démocratique. Une vraie dynamique, j'allais dire, sociale également, et avec une configuration absolument hétérogène. C'est incroyable.
Oui, c'est...
Vous êtes très différent dans ce réseau. Il y a des mini-entreprises, des TPE de TPE, et il y a des grosses machines.
Donc pour le président, ça a du charme. C'est aussi parfois une complexité, très clairement. Donc oui, charme, mais il y a aussi parfois une complexité, parce que embarquer dans des projets dans un même unique projet, des structures de taille différente. Je pense qu'il y a aussi une autre explication à notre situation actuelle, c'est nous la très bonne connaissance territoriale. Donc on est très éclaté avec des gouvernances qui sont sur les territoires. C'est pas Bord, président de Procivis, qui décide ce qui se passe à Valence.
Vous avez été élu ?
Bien sûr, en 2020.
Vous êtes réélu quand ?
En 2026. C'est des mandats de 6 ans, c'est comme les mandats politiques.
Et vous comptez ? Vous représentez ?
C'est un peu tôt, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à la présidence de ce réseau.
En tout cas, voilà, 3 jours, bien sûr, ici, en direct, du plateau de Procivis. On est ici dans l'espace où il y a tous les bailleurs sociaux. En fait, c'est un peu le cœur névralgique.
Il faut passer sur le plateau Procivis Radio Immo.
Absolument. Vous venez tous nous voir avec grand, grand, grand plaisir. En plus, notre ami Yannick Bord a préparé des cookies pour vous. On a vu pas mal d'exposants qui nous distribuent des cookies. En tout cas, l'ambiance est plutôt bonne. Elle est résolue. elle est résiliente. Si je vous demandais juste pour conclure cette introduction, et nous ferons d'ailleurs, si vous voulez bien, comme on le fait chaque année, la fermeture ensemble, pour ressentir ce qui s'est produit, qu'est-ce que vous diriez, si vous deviez la résumer en une phrase, le sentiment que vous voulez faire passer là, pour cette année 2024, qui est cruciale, comme vous le savez?
Nous, on résiste aujourd'hui. Donc, à un moment donné, la résistance, ça a ses limites, quoi. C'est-à-dire qu'on est peut-être au fond de la descente. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'entre les acteurs, entre la sphère publique et le gouvernement qui vient de s'installer, il y ait vraiment une dynamique qui s'installe pour dire oui, le secteur du logement, c'est crucial pour nos habitants, comme l'emploi, comme la santé, comme l'éducation. Et il faut en faire une vraie politique sociale et arrêter d'en faire une politique d'arbitrage budgétaire.
C'est très clair. D'ailleurs, nous recevons à ce titre-là toutes les personnalités publiques, locales, politiques, pour l'évoquer. Je rappelle que Yannick Borde, vous êtes le président de Procivis, on est avec vous pour ces trois journées très intenses à suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt sur Radio Territoria et sur Radio Immo. Bien sûr, on se retrouve dans quelques instants. Merci.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.